Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Delphine Harviller.
Bonjour.
Vivre avec nos morts, c'est le livre que vous publiez chez Grasset et c'est une bonne partie de votre vie comme rabbin. Vous officiez à de nombreuses obsèques pour y parler de la mort, des morts, consoler les vivants. On s'habitue à cela ?
Non, on s'habitue pas à cela et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité écrire ce livre. Bien souvent les gens me demandaient ces dernières années comment tu fais pour vivre avec les endeuillés, la mort, les cimetières, les soins palliatifs et j'esquivais toujours la réponse. Je répondais une chose et son contraire. Et j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je sois capable de plonger dans cette question, mais à la fois plonger dans ma propre biographie pour essayer de comprendre ce qui me permettait de me tenir aux côtés des morts, ce qui m'y poussait peut-être même aussi parfois.
Et en même temps, vous dites que vous tentez de vous en tenir éloigné de la mort. Vous avez d'ailleurs un rituel pour ne pas ramener la mort à la maison.
Oui, en fait, j'ai développé un rituel. Enfin, c'est simplement quand je sortais du cimetière, j'avais toujours cette habitude. Je dis j'avais parce que plein de choses ont changé avec le Covid, mais j'avais cette habitude de faire un détour par un café, par un magasin pour essayer de me réinscrire dans la vie. En fait, c'est compliqué. La vie et la mort se tiennent toujours la main. Et je crois qu'on a tous besoin de rituels pour penser ce dialogue et cette jonction.
Se tenir éloigné de la mort, c'est aussi ne pas succomber vous-même à l'émotion, sinon il n'y a pas de consolation.
Oui, et puis surtout quand moi j'officie au cimetière, je sais que la voix que je porte n'est pas que la mienne, c'est la voix d'une tradition d'enchaînement de générations. Elle était là avant moi, elle sera là après moi, et c'est important que les endeuillés qui eux sont effondrés au cimetière et vers qui se tourner et sachent que ce que j'incarne en cet instant va tenir debout et leur permettre peut-être même de s'accrocher pour se relever. Donc il faut que je puisse tenir, ce qui n'est pas toujours simple, parce que ce qui me permet aussi d'officier, c'est bien sûr ma propre vulnérabilité, mon humanité, donc c'est un dosage subtil.
Que vous évoquez dans ces pages bouleversantes sur votre amie Ariane. Là, la frontière est abolie parce que votre amie vous avait demandé de l'accompagner jusqu'à la mort. Par amour, j'aurais dû refuser et par amour, j'ai accepté.
Oui, Ariane était une amie très proche. Effectivement, quand on a su que la fin arrivait, elle m'a demandé d'endosser les deux rôles, de rester l'amie et de devenir le rabbin. Et je savais très bien que ce n'était pas possible. Mais c'est ce que je me suis engagée à faire. Et dans ce livre, j'essaie de raconter ça. C'était un livre compliqué parce que je ne voulais rien trahir, ni d'elle, ni bien sûr de sa famille. Et donc, c'était important pour moi que ce livre soit fait, bien sûr, avec l'accord des proches, de tous ceux dont je raconte l'histoire. Et j'ai essayé de construire ce livre comme une tresse, en fait, d'une certaine manière, entre la vie des autres que je raconte, de la pensée philosophique ou juive, ou ce que j'ai pu apprendre de cet accompagnement d'un point de vue philosophique, et puis la façon dont ça a fait écho pour moi, en espérant que ça puisse servir à d'autres, parce que finalement, on est beaucoup là pour consoler. En fait, on n'est pas toujours consolable. Il y a des situations dans la vie qui nous laissent inconsolables. Mais on doit toujours se poser la question de comment on pourrait offrir un peu de consolation à l'autre, là où il se tient.
Ce livre et votre réflexion, Delphine Harviller, prennent une résonance particulière parce que la mort, elle est tous les jours, presque toutes les heures, dans les bulletins d'information. Depuis le début de la crise sanitaire, il y a un an, des chiffres, le plus souvent une abstraction, des morts invisibles, parfois même pour les familles. On a eu des témoignages ici même. Comment trouver la bonne distance ? Est-ce que quelque chose a changé avec la crise dans le rapport à la mort ?
Oui, j'écoutais effectivement, dans le côté du studio tout à l'heure, l'enchaînement des chiffres. On a l'impression qu'on a fait qu'enchaîner des chiffres et on le voit bien.
Et c'est tous les jours.
On accumule ces chiffres et on voit très bien que quand il n'y a pas de nom, il n'y a pas de visage, ça ne veut plus rien dire au bout d'un moment. Donc la question, c'est comment on remet des noms, comment on remet des visages. Et le seul moyen de le faire, c'est de remettre dans l'ordre des histoires, de placer des mots sur les histoires. Moi, j'ai la conviction que les récits et les narratifs peuvent nous aider et qu'il y a cette interdiction de faire disparaître les noms, les visages et les histoires, particulièrement où quelqu'un nous quitte. Et donc, voilà, une partie de mon travail, moi, c'est de re-raconter des histoires ou parfois de faire entendre à quelqu'un l'histoire qu'il vient de me raconter sur la personne qui est partie, mais qu'il n'a pas pu entendre parce que, vous savez, parfois, et c'est intéressant de le dire à la radio, je trouve. Parfois, notre oreille n'entend pas ce que dit notre bouche. C'est-à-dire que parfois, le chemin est très très long entre ce que je dis à quelqu'un d'autre et ma propre capacité de l'entendre. Et ma fonction, mais peut-être aussi la fonction d'autres accompagnants, même de psychanalystes, c'est de permettre à une personne d'entendre ce qu'a été son récit et donc, d'une certaine manière, de poursuivre un dialogue qu'il a commencé avec quelqu'un qui n'est plus là.
C'est ce qui vous fait dire que vous faites un métier de conteur ou conteuse et de couturier ou couturière.
Oui, c'est drôle parce que finalement, quand les gens me demandent c'est quoi le métier de rabbin, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Mais pour moi, c'est très proche à la fois de la couturière et de la conteuse. Alors, à travers l'histoire, c'est des métiers qui ont été plutôt féminins. On a toujours pensé que c'était les femmes qui racontaient des histoires et elles qui cousaient les tissus. Mais en fait, c'est vrai que je m'intéresse à la possibilité des jonctions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on recoud des fils déchirés et comment est-ce que les mots et les récits peuvent nous y aider ?
On parlait de la crise, c'est pas la pandémie qui vous a inspiré ce livre, vous l'avez commencé en 2015 après les attentats, vous racontez les obsèques d'Elsa Kayat, la psy de Charlie Hebdo, et la sœur d'Elsa, Béatrice, vous présente à l'équipe de Charlie comme un rabbin laïque. Ne vous inquiétez pas, elle dit, c'est un rabbin laïque. Et ça vous a surpris, mais cette formule, vous avez fini par l'adopter.
Oui, j'ai sursauté, bien sûr, sur le moment. Je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Je me trouvais dans ce cimetière, effectivement, face à une famille juive qui m'avait demandé d'accompagner Elsa, et face à sa famille de cœur et sa famille Charlie. On était dans un temps de polarisation extrême où plein de gens essayaient de nous monter les uns contre les autres, de voir d'un côté ceux qui croient de l'autre, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont attachés à la République, ceux qui sont attachés à la religion, et ces différences ne rimaient à rien ce matin-là dans le cimetière. On savait bien qu'on faisait partie de la même famille, de la famille regroupée sous le ciel de la laïcité, en fait, qui nous permettait de nous tenir là. Et c'est vrai que ce terme qui m'a fait sursauter, j'ai fini par le revendiquer. Et plus que jamais, en fait, aujourd'hui, ce terme me convient, me semble-t-il.
Oui. Avec la dimension particulière de la religion juive qui n'est pas prosélyte,
oui.
Vous le soulignez. Enfin, il y a un rapport aussi à la société qui est
oui, sans doute
qui est un peu particulier.
Un rapport un peu particulier, mais souvent il y a quand on dit rabbin laïque, il y a un malentendu. Les gens pensent rabbin athée ou rabbin sans religion. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Pour moi, la laïcité est ce qui me permet d'exercer en France aujourd'hui mon rabbinat, parce que pour moi la laïcité c'est la conscience que l'air n'est pas saturé de ma croyance, et que grâce à cet espace vide de ce que je crois, qui fait de la place à ce que vous ou d'autres croient, on peut mieux respirer. Et ce matin-là, c'est vrai, où on étouffait tous au cœur de notre deuil collectif en janvier 2015, j'ai compris que j'allais me mettre en recherche de cet espace non saturé.
Vivre avec nos morts, c'est aussi garder en mémoire les gens qui ont compté pour vous. Votre grand-père, à qui vous dédiez ce livre, le plus grand sage de votre monde, qui était près de vous quand vous avez approché la mort à 10 ans après avoir avalé un bout de plastique.
Oui, voilà, où j'ai cru approcher la mort. C'est étrange parce que maintenant, l'adulte en moi qui écoute ce récit de la petite fille que j'étais à 10 ans, qui a cru mourir un soir, a parfois envie de lui dire, t'exagères un peu, tu risques rien du tout. J'avais avalé un petit morceau de plastique et simplement cet épisode.
Il y a des enfants qui meurent.
Oui, enfin, là, hein. Voilà, bien sûr, mais là, je crois vraiment que je n'étais pas en danger. J'avais pas d'obstruction de voix aérienne, mais c'était simplement une perception à ce moment-là très intense que ma vie est en danger, en tout cas ma vulnérabilité, je la touchais du doigt, ma mortalité.
Et puis deux grandes figures qui continuent de vous accompagner, Simone Veil et Marceline Loridan.
Oui, elles sont très présentes, je pense beaucoup à elles en parlant de cet ouvrage. Je pensais aussi beaucoup en entrant, poussant la porte de votre studio à une interview que vous aviez fait d'elle, de Marceline Loridan.
Ah oui, elle était en colère ce jour-là.
Elle était en colère et je me souviens d'un long silence dans le studio. Oui. On avait l'impression qu'un ange passait. Je crois que les gens qui ont écouté cette interview l'ont peut-être jamais oublié, mais en tout cas, ça racontait bien Marceline et la façon dont tellement de fois dans la vie, elle a dit, pardon du langage, merde à la mort. Elle tenait la mort à distance. Elle savait tenir le morbide très très loin d'elle, peut-être parce que la mort l'avait approchée si souvent. Et je trouve que Marceline et Simone, dans leur amitié, ont incarné finalement deux façons de se relever et de tenir la mort à distance.
Mais certains qui vous écoutent en ce moment doivent se dire, mais la mort a toujours le dernier mot, c'est pas vrai ?
Eh ben non. Je crois que c'est pas vrai.
Pourquoi ?
En fait, je crois que bien sûr, quand la mort est là, elle est indéniablement là, mais que j'ai la conviction que nos récits, la trace dont on est conscient, la trace des morts et qu'ils laissent dans notre vie, fait qu'on peut poursuivre un dialogue. Et il existe un moyen, même quand la mort est là, me semble-t-il, de dire qu'elle n'aura pas le dernier mot.
Vivre avec nos morts, petit traité de consolation, c'est le sous-titre chez Grasset. Merci beaucoup Delphine Horviller d'être venue nous en parler.